voiture des sécurités, c'est Roger Moutou, la voix de l'Amérique. On décolle, on quitte Washington aujourd'hui en direct, bien sûr, de nos studios où nous fonctionnons, bien sûr, à cause du coronavirus. Et c'est de ça qu'on parle cette semaine. On parle de l'impact économique et social du coronavirus. Dans cette émission aujourd'hui, le docteur Constantine Tchenkou sera avec nous, notre invité, comme on vous l'avait promis, c'est un expert. Et il va lui répondre à beaucoup de questions que vous nous avez posées, dont n'y quittez vraiment pas. Si vous avez des questions à poser à propos de ce coronavirus, le docteur Tchenkou sera notre invité au long de toute cette semaine. Et si vous n'avez pas vu vos questions, vos réponses, allais-je dire, dans cette émission, ne vous découragez pas, vous aurez vos réponses cette semaine, en tout cas dans RM Show. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas que notre numéro, c'est au plus 1-703-350-37-31. Attachez vos ceintures, on décolle. Vos ceintures de sécurité, on décolle, on quitte Washington. Ici Roger Moutou, en direct de Washington DC, Roger Moutou de RM Show sur VO Afrique. Vous nous captez chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. On continue cette semaine à parler de l'impact socio-économique causé par la maladie à coronavirus. Et bien sûr, nous allons continuer aussi à avoir des interviews avec plusieurs personnes, poser aussi vos questions et peut-être trouver des informations et des conseils concernant la flambée actuelle de maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 qui a été signalée pour la première fois, je rappelle, à Wuhan en Chine le 31 décembre 2019. Nous vous invitons donc en tout cas à rester jusqu'à la fin de cette émission, à poser vos questions sur WhatsApp au plus 1-703-350-37-31 ou nous envoyer un message aussi sur ma page Facebook Roger Moutou Journaliste ou Roger Moutou, la voix de l'Amérique. On décolle aujourd'hui aussi avec de la bonne musique africaine. Gardez espoir, let's keep hope alive. On écoute Dindi Emene. Vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Yeah. Chanson de grand qu'on appelle ou qu'on appelait parce qu'il était avec nous, Péa Sonam, le grand Kwamambu Kester. Afrique, ici votre émission RM Show. Merci beaucoup à vous si vous êtes en train de nous capter, bien sûr en direct de Bamako, en direct de Cocody Abidjan, nos amis qui nous captent à Pointe-Noire, merci beaucoup à vous de rester fidèles en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique. Quel plaisir, quel honneur, et nous continuons bien sûr à parler de ce sujet qui nous concerne tous en tout cas. Très 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 important qu'on puisse en parler et vous aussi si vous voulez participer n'hésitez surtout pas, RM Show c'est votre émission, c'est notre émission à nous tous, pourquoi pas en parler. On va maintenant écouter un autre morceau que moi en tout cas j'adore, j'ai toujours adoré depuis que j'étais tout petit parce que j'écoutais ça à la radio et ça m'a toujours fait bouger. C'est la chanson Umkombodi Yvonne.
When my jamin, wopum kombote. When my jamin, wopum kombote. When my jamin, wopum kombote. When my jamin, wopum kombote.
I'm
présent, place à notre segment anglais, l'humour du jour. Hello everyone, en lieu de Michel Joseph, je veux peut-être moi aussi vous apprendre un petit mot aujourd'hui, notre collègue étant un peu empêché, je vais m'en aller et vous apprendre un petit mot facile, peut-être pas comme Michel, mais vous savez quand on dit mon nom, le nom Roger Montu en anglais, c'est my name. Name, N-A-M-E, my name. Alors pour dire je m'appelle Roger Muntu, vous dites tout simplement my name is Roger Muntu. C'est comme ça que nous on dit ça en anglais. My name is Roger Muntu. Et en français vous direz je m'appelle Roger Muntu. Seulement en anglais on dit mon nom c'est Roger Muntu. My name is Roger Muntu. What is your name? Et là, je vous pose la question maintenant. Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? Et là, vous allez répondre comment? J'attends. Ben voilà, vous répondez. My name is Bakari Keita. My name is Nimaga Sisoko. My name is Robert Johnson. Voilà, et c'est tout ce qu'on a appris aujourd'hui dans Word of the Day, ou le mot du jour, espérant avoir notre collègue Michel Joseph prochainement, mais quand elle n'est pas là, voilà. Nous aussi, on peut essayer de vous apprendre un petit mot pour que vous continuiez à apprendre l'anglais de Michel Joseph, Word of the Day. Voilà, comme nous vous avons promis qu'on aura encore le docteur Konstantin Tchenkou avec nous cette semaine. On dit d'abord bonjour docteur.
Bonjour Roger, comment vous allez?
Nous allons très bien docteur. On commence avec cette grande nouvelle qu'on a tous entendue hier, parce qu'on parle toujours, je rappelle à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, on parle toujours de l'impact économique et social du coronavirus pour informer tout le monde. Hier, docteur, on a vu que la Maison Blanche et le Sénat américain, et ils sont finalement parvenus dans la nuit de mardi à mercredi, allais-je dire, à un accord historique sur un plan gigantesque de relance de la première économie mondiale durement frappée, on doit le dire aussi, par la pandémie de coronavirus. On avait vu cette annonce aussi par le chef de la majorité républicaine qui a bien dit, et je cite, ce plan injectera des trillions de dollars de liquidités dans l'économie aussi vite que possible pour aider les familles de travailleurs américains, les petites entreprises et les industries à traverser les turbulences et à faire surface de l'autre côté. Que pensez-vous de cette décision finale?
Merci pour cette question. C'est la première fois dans cette génération, je peux dire dans 100 ans, où nous trouvons une crise sanitaire qui n'est pas seulement une crise sanitaire désormais, mais qui est une crise économique. Nous avons un double poids. Nous sommes secoués par deux choses à la fois. L'une chose, la santé, et l'autre chose, l'économie. Et les deux vont ensemble. Il faut une bonne santé pour aller travailler. Il faut une population en santé pour pouvoir produire. Et ici, maintenant, nous avons un problème où nous sommes en train de tout fermer. Tout est mis en quarantaine. Et nous sommes en train d'entrer dans une phase de crise économique, de conjoncture très profonde. Il faut que les gens soient prêts. Que les gens commencent à préparer leurs économies parce que nous allons faire face à un monde un peu plus dur désormais.
Merci beaucoup, docteur. Et ça, vous l'avez dit aussi hier quand vous avez eu. Et effectivement, on voit.
Allô,
docteur, vous êtes là avec moi, vous m'entendez, c'est bon? D'accord. Donc, je voulais dire, docteur, vous l'avez aussi dit hier, et ça, c'est, ça montre qu'il y a une certaine progression. Mais rentrons un peu à notre continent, la maman Africa, comme on dit, Mother Africa. On a vu, docteur, les autorités éthiopiennes, par exemple, qui ont commencé à libérer plus de 4000 prisonniers jeudi afin de ralentir la propagation du coronavirus. En tout cas, c'est ce qui ressort d'une déclaration de
la procureure générale Adanech Abeb qui avait précisé que la mesure s'applique aux personnes condamnées pour des délits mineurs, hein, et elle s'applique aussi aux détenus qui devraient être libérés dans les 12 prochains mois, ainsi qu'aux femmes avec des bébés. Vous pensez, docteur, sanitairement, c'est une bonne décision?
Oui, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience qu'il y a un danger qui arrive. Nous avons un danger qui s'approche de l'Afrique. Mais l'Afrique a un avantage énorme sur tous les autres continents. Nous avons vu ce virus détruire l'Asie. Nous avons vu ce virus détruire l'Europe. Nous avons vu ce virus détruire les États-Unis. L'Afrique est encore à l'abri. Et nous avons une fenêtre d'à peu près 10 jours à 2 semaines pour tout faire pour contenir ces virus. Comme je disais l'autre jour, il y a deux types de prévention en médecine. Il y a la prévention primaire, qui veut dire que vous empêchez la maladie d'attaquer le sujet. Et c'est ce que je demande à l'Afrique pour nous présenter toutes les mesures de prévention primaire. Ça veut dire qu'on fait tout pour empêcher cette maladie d'entrer et pénétrer dans nos communautés. Elle est encore une maladie étrangère. Elle est encore une maladie qui vient de la Chine ou de l'Europe. Maintenant, quand la maladie s'installe, on parle de prévention secondaire. Ça veut dire qu'on empêche que celui qui est infecté infecte les autres. On empêche que celui qui est infecté devienne très malade. On empêche que celui qui est infecté ait une insuffisance respiratoire dont il aura besoin d'une intubation. Je dis encore, l'Afrique a beaucoup de chances dans ce terme que la maladie n'est pas encore pris pied chez nous. Nous devons prier nos autorités de commencer à faire ce qu'on appelle les couvre-feux. De tous les États, on doit d'abord déclarer un état d'urgence. Il faut un état d'urgence qui doit être déclaré immédiatement. La deuxième chose, nous devons déclarer la guerre contre ces virus. Nous sommes en guerre. Que comme l'ennemi essaie de résister, nous sommes désormais en guerre.
Docteur, on vous entend très bien parler, et on s'est dit, mais les docteurs parlent, mais écoutez, par exemple, il y a un exemple où il y a des milliers d'infirmiers du Zimbabwe qui ont entamé mercredi une grève pour protester contre le manque d'équipement pour lutter contre la pandémie de coronavirus dans leur pays, au système de santé en délicat forme, on va dire, et on le sent d'ailleurs que ce n'est pas seulement au Zimbabwe, mais dans plusieurs pays, on l'a vu en RDC, au Congo, où par exemple, tout un pays n'a que 50, je pense, machines respiratoires, je pense, c'est comme ça qu'on dit. Mais comment alors garantir le boulot de ces infirmiers, docteur?
Je vous dis que l'Afrique parle très favori dans cette guerre. Pourquoi? Parce qu'elle a trois exemples, elle a trois échantillons qu'elle peut regarder et choisir la manière de défense qu'elle veut. L'Afrique a une chance qu'on peut faire la prévention primaire. Ça veut dire qu'on décrète un état d'urgence, personne ne sort de chez lui, il y a un couvre-feu total. Et l'État prend en charge la santé, la nutrition, les médicaments et tous les besoins de la population pour un temps très déterminé. 14 à 28 jours, c'est ce qu'il faut faire. L'État doit s'occuper de ses citoyens. Et tout le monde reste chez lui. Il n'y a que les médecins qui peuvent aller à l'hôpital et les gens de sécurité de l'armée pour partager les nourritures, les médicaments, l'eau et tout consort. C'est ce qu'il faut faire entre 14 et 28 jours. Si nous ne pouvons pas le faire, c'est ce que j'appelle la dépense sociale, empêcher les foules et tout ça, nous allons aller être contaminés et maintenant on va à la prévention secondaire. Nous n'avons même pas de moyens de pouvoir gérer cette crise. Ça serait la catastrophe. Parce qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui peut soutenir une infestation de la population de ces gens. Je dis que nous avons encore beaucoup de chance. Il y a entre 10 et 14 jours pendant lesquels nous pouvons agir. Après cette période, ça serait la déluge. Elle arrive, c'est comme on dit, le torrent arrive, elle est en route. C'est le moment de faire ce qu'il faut faire, sinon nous n'en parlerons pas.
le moment de faire ce qu'il faut faire. Vous venez, docteur, de parler du couvre-feu. On l'a vu, hein, la pandémie, en tout cas, continue de se propager sur le continent africain. Et ce couvre-feu-là et état d'urgence ont été déclarés dans plusieurs pays. Je veux parler du Sénégal, on en a vu en Côte d'Ivoire, au Nigeria, un proche même du président testé positif, qui a aussi provoqué l'inquiétude. On a vu aussi en RDC, où un proche aussi du président a été comment testé, où ils ont perdu même, il y a eu un mort dans un proche du président Félix Tshisekedi aussi. Est-ce que c'est ce couvre-feu et état d'urgence, c'est la solution à cette situation?
La solution que l'Afrique, la seule solution qui peut sauver l'Afrique, c'est la prévention primaire. Ça veut dire qu'on empêche que ceux qui sont venus avec cette maladie de l'euro, parce qu'elle est venue bien de l'euro, ne se mélange pas à la population. Parce que quand cette maladie vient de l'euro, elle est encore importée. Mais lorsque ces gens se mélangent, il y a le brassage, ça devient une maladie locale. Et ça commence à se propager dans les communautés. Comme je dis, on n'a même pas besoin de fermer tout un pays. On a besoin de fermer d'abord les grandes villes où les avions atterrissent. On a besoin de fermer les villes où les bateaux atterrissent. Parce que nous savons que cette maladie vient d'ailleurs. On ferme les frontières. On n'a pas besoin d'aller dans une ville qui est éloignée et mal servie pour aller fermer là-bas. Non. Mais les grandes métropoles, Abidjan, Yaoundé, Yamoussoukro, je ne sais pas quoi, Tunis, on les met en quarantaine, on fait un cordon sanitaire pour qu'elles ne se propagent pas. Parce que lorsqu'elles se propagent pas, nous n'avons pas les moyens sanitaires d'intuber 1000 personnes dans une ville. On a fait un recensement récemment, on a dit qu'il y a peut-être 25 machines d'intubation dans la ville de Yaoundé, je parle du Cameroun. Il n'y a que 25 machines pour intuber. Nous avons vu en Italie qu'il y a 800 morts par jour. Vous imaginez, s'il faut intuber 1000 personnes, quand il y a seulement 25 machines, alors je dis, essayons de faire ce qui est faisable, tant qu'il est encore possible. Nous sommes au début de cette maladie. Il y a très peu de cas. C'est le moment de contenir cette maladie. Elle est contenable à 100% aujourd'hui. Dans deux semaines, nous n'en serons plus là. Parce qu'il y aura brassage de population. Les gens continuent à vaquer à leurs occupations. Les gens vont toujours au bureau. Ils prennent des taxis. Quand vous entrez dans un petit taxi, vous êtes à 4. Quand vous sortez, vous êtes tous contaminés. Alors, ça c'est des défis. Nous ne disons pas que c'est facile. C'est très difficile en Afrique de pouvoir faire ce qu'on demande.
C'est très difficile, c'est très difficile.
La peine. C'est ce qu'on dit. Le sacrifice vaut la peine. Ça serait très difficile de le faire en Afrique. Parce que souvent on n'a pas de frigo pour garder la nourriture pour une semaine. Souvent il faut aller quelques mètres ou même un kilomètre pour trouver de l'eau. Ça c'est des défis. Mais nous disons que l'État doit venir en aide de sa population. Nous sommes en guerre. En temps de guerre, c'est l'état d'urgence. L'État protège ses citoyens.
L'actualité aujourd'hui, la filière Evicole en Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc, va prendre chaque mois 60 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en raison du coronavirus. En Afrique et partout ailleurs dans le monde, la pandémie du Covid-19 a entraîné la fermeture de plusieurs lieux de rassemblement, dont les écoles au Sénégal. Une chaîne de télévision a lancé un programme avec des cours quotidiens pour aider les milliers d'enfants restés à la maison à éviter du retard dans leurs études. Malgré le verrouillage imposé par le président de Madagascar, les clients s'effraient au marché jusqu'à l'heure de fermeture décrétée à midi. Sur les marchés d'Antananarivo, des vendeurs de masques, de remèdes traditionnels dérivés des citrons, du gingembre et des plantes médicinales sont de plus en plus présents et se font un bon business. aux quatre coins de la planète, les rues généralement animées ressemblent désormais à des scènes des films post-apocalyptiques. La pandémie du nouveau coronavirus a forcé la plupart des gens à rester chez eux pendant que les autorités sanitaires font la guerre au virus en désinfectant bloc par bloc des villes entières. Et c'est tout pour l'actu. Et voilà, les amis, RM Show continue dans un instant. Nous allons prendre un petit repos, un petit break. Nous revenons en deuxième partie, la partie la plus importante. Et on continue à parler au docteur Chinkou, docteur Constantin Chinkou, qui répond à vos questions aujourd'hui. Please don't go, RM Show continue dans un instant. Je vous dis comme d'hab, God bless. Peace, Africa. En direct de Washington DC, je vous dis merci infiniment. On parle au docteur Chinkou sur l'impact économique et social du nouveau coronavirus que le monde traverse en ce moment. Si vous avez vos questions, n'hésitez surtout pas à les envoyer sur WhatsApp au plus 1-703-350-3731 ou sur mon email rmontou@voanews.com. N'hésitez surtout pas à me citer aussi sur Facebook rmontou, Roger Montou, la voix de l'Amérique. On est ensemble, on continue aussi, c'est la musique africaine aujourd'hui, pourquoi pas écouter un morceau de Toufan. C'est laver le main au savon du groupe togolais Toufan, de nouveau d'actualité au Togo. C'est une chanson de 2013 du célèbre groupe Toufan, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, qui semble refaire surface. Hein. Elle évoque un geste désormais essentiel pour contenir le Covid-19. C'est laver les mains au savon. Le titre avait notamment servi de sensibiliser les plus jeunes lors d'une campagne menée par le bureau régional africain de l'OMS.
Ne négligeons pas notre environnement et notre hygiène.
Don't do it. longtemps. Moi, j'ai les mêmes profs.
Ah, ça, vous avez très bien compris. Il faut vraiment se laver les mains au savon, un geste simple qui sauve des vies aujourd'hui, surtout dans la situation où le monde se trouve en ce moment. Un conseil gratuit, comme vous l'avez suivi depuis le début de cette semaine, ne vous touchez pas la figure, le nez, les yeux, le nez, lavez vos mains souvent, plus de 20 secondes quand vous êtes en train de nettoyer vos mains avec un savon, s'il vous plaît, 20 secondes au minimum, en tout cas pour que vos mains soient propres et que vous ne vous contaminiez pas ou que vous ne contaminiez pas d'autres personnes. On continue, vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique, ici Roger Moutou, la voix de l'Amérique.
Hier, docteur, vous avez dit quelque chose de très important que vous êtes encore en train de dire aujourd'hui. Je vous avais posé la question de savoir comment expliquer que ce cas n'était pas encore arrivé en Mauritanie ou au Mali. Vous avez dit, Roger, l'immigration. Et on vient maintenant d'apprendre, effectivement, comme vous avez dit, que le coronavirus est arrivé au Mali et en Libye, deux pays en guerre. Hein. Ce Covid-19 a officiellement atteint le Mali par un monsieur qui est venu de la Côte d'Ivoire et qui est passé par Ouagadougou, Burkina Faso. Et maintenant, l'inquiétude suscitée par les limites des systèmes sanitaires africains face à l'émergence progressive de la maladie coronavirus continue. Donc, vous avez parlé de l'immigration. Et là, vous nous dites encore une fois, fermez peut-être les grandes entrées ou les aéroports. On se connaît aussi, docteur, on le sait que certains pays, pour vivre, dépendent d'autres.
Oui, le sacrifice que nous demandons en ce moment est énorme. Ce n'est pas, on ne va pas avec ces décisions à faire léger. Ce sont des sacrifices énormes. Mais nous sommes dans un combat pour sauver l'humanité. L'humanité est mise en péril. Ce n'est pas un jeu. Lorsque vous attrapez cette maladie, 80% des personnes auraient pour grand problème, peut-être une petite grippe. 15% des personnes auront besoin d'aide médicale. Ça veut dire que tous les effets thérapeutiques dont on vous parle, la chloroquine, l'azithromycine, l'aloe vera, le miel, le citron, la vitamine C, ça va aider 15%. Il y a 5% qui vont entrer en insuffisance respiratoire. Donc, certains auront juste besoin de l'oxygène et d'autres auront besoin d'être intubés où on met la machine à respirer à leur cerveau. Voilà à peu près comment la maladie se présente. Nous disons que l'Afrique n'a pas besoin d'entrer dans les 5% dont nous parlons. Nous pouvons prévenir ça juste en prenant un moment entre 14 et 28 jours de sacrifice. On demande nos sacrifices individuels d'abord. On demande la discipline individuelle. Puis un sacrifice collectif par la nation d'État et la discipline d'État. C'est tout ce qui peut sauver l'Afrique à ce moment. Maintenant, il y a un petit caveat. Quelque chose peut nous sauver aussi, Bernard. La chaleur. Nous ne connaissons pas entièrement l'effet de la chaleur sur ce virus. Mais nous savons que la plupart des virus de ce type ne se propagent pas très bien dans des températures supérieures à 28-30 degrés. Ceci dit, la chaleur peut nous aider à ralentir ce virus. Comme je vous dis, puisque lorsqu'on a une maladie où il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, le seul moyen de limiter la propagation, c'est la prévention primaire. Alors, j'insiste toujours sur la prévention primaire. Empêcher que les gens soient infectés. Si tout le monde reste chez lui, après 28 jours, la maladie est finie.
Wow, ça. Et là, vous venez de dire, docteur, quelque chose de très important. C'est qui le monsieur en charge de le task force team de président en charge du coronavirus? C'est docteur Fauci, c'est lui? Fauci?
Allô?
Oui, docteur, vous voyez de qui je parle? Le docteur qui est en charge de...
Fauci,
c'est ça, hein?
De l'immunologie et des maladies infectieuses, oui, à l'aide de l'immunologie en infectieuse.
D'accord.
Oui.
Voilà. Il a dit quelque chose de très important hier que j'ai suivi, et vous venez de dire ça aussi parce que vous venez de parler de la chaleur du climat aussi africain, et il a dit quelque chose qui a retenu un peu mon attention, et il parlait de l'Afrique. On lui a posé la question de savoir est-ce que vous pensez que ce coronavirus ça va revenir encore l'année prochaine ou des années après. Il a dit ceci, il dit, vous savez, l'Afrique va entrer récemment, va dans quelques mois entrer dans leur, ce qu'ils appellent leur hiver. Et si l'Afrique entre en hiver et que ce virus-là continue à se développer en Afrique, nous avons un grand problème, un très grand problème, parce que cela montre et signifie que ce virus-là va encore revenir ici et ça sera un cercle vicieux. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement-là?
Oui, et je vais même pousser plus fort.
Oui.
Que nous, en Afrique, il y a longtemps, on a un moyen de traiter les infections respiratoires des voies supérieures. C'était qu'on prenait certaines feuilles, on mettait dans une marmite, on faisait bouillir, on mettait notre face à cette marmite bouillissante et la vapeur rentrait dans nos narines et dans nos poumons. Et on mettait une couverture, n'est-ce pas, autour de la tête et de cette marmite, ce qui fait que la vapeur qui sortait rentrait dans notre voie respiratoire. Je recommande encore ce processus-là, qui est un processus de réchauffement des voies respiratoires supérieures. elle est très importante pour diminuer la charge bactérienne parce qu'elle est une bactérie essentiellement superficielle sur les voies respiratoires supérieures. Mmh. Ça veut dire que si vous réchauffez ces voies par ces moyens dont nos grands-mères utilisaient, nous pouvons aussi diminuer la charge virale et diminuer la capacité d'infecter les autres. Parce que ces bactéries restent proches des narines et elles sont très concentrées dans les sécrétions autour des narines. Sur le pourquoi une petite charge peut infecter beaucoup de personnes. Et comme on disait aussi, elle peut rester à peu près 8 heures du temps en l'air et à peu près une journée quand elle tombe sur une surface, sur les tables, les poulets, autre chose. Mais je répète, la chaleur a un rôle très important dans ces bactéries. Alors, si vous avez une petite, depuis un petit bout de grippe, ou bien prenez cette marmite, vous vissez, vous mettez la couverture autour de votre tête et la marmite, et vous aspirez la vapeur chaude là. Elle sera très importante pour aider cette maladie.
Merci beaucoup, docteur. Alors, une autre question avant qu'on puisse finir un peu. C'est l'arrivée de ce coronavirus, docteur, au Kenya. On a vu que ça a changé la façon de conduire les services religieux dans les divers lieux de culte hein, de la capitale. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe aussi dans d'autres pays. En Afrique aussi, les catholiques, par exemple, de Nairobi, s'abstiennent d'utiliser de l'eau bénite. Les musulmans ont cessé les ablutions rituelles et les temples hindous, par exemple, se sont tournés vers la diffusion en direct de leurs services par Internet. Cela change notre façon de croire à qui on croit, à Dieu, à Allah. Ça change tout aujourd'hui. Est-ce qu'on doit continuer à vivre ainsi?
Alors, je vais nuancer ici. La croyance en Dieu et les principes fondamentaux de toutes ces religions ne changeront pas. Ce sont la manière, les rituels qui vont changer. Mais la ritualité et la croyance est un peu différente. Les rituels vont changer. La manière d'embrasser les gens à l'église, la manière de saluer à l'église. D'ailleurs, pour le moment, s'il y avait un conseil, on ne veut pas plus de 10 personnes dans un endroit clos. Ça veut dire que quoi? Que en principe, si c'était possible, on ne mérite pas voir les gens dans les églises. Maintenant, aux États-Unis, il n'y a plus de regroupement dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le social distancing. Nous devons être à 1,5 mètre de l'individu à qui on parle à tous les moments. Alors, ça, c'est presque impossible dans les églises et les temples où on est un peu plus serré. Ce qui fait que je pense que pour le moment, on ne va plus à l'église des dimanches. Si c'est possible, on fait les églises par télévision, télé-église, radio et tout ça. On ne veut plus de foule. Mais je dis, la croyance doit être plutôt renforcée. Ça, nous devons croire encore plus au Créateur et nous devons implorer son aide qui nous donne la sagesse que nous pouvons combattre et détruire ce virus. Mais les principes vraiment de la France ne changent pas. Ce sont les rituels qui changent.
Les rituels qui changent, on a très bien compris. Docteur, quel conseil vous donnez aux gens, aux familles, aux parents, aux grands-parents qui sont stressés en ce moment? Quel conseil vous donnez à une famille, à des familles qui sont en train de nous suivre en ce moment, partout dans le monde, et spécialement, particulièrement en Afrique, dans les pays africains? Quel conseil pour éviter ce stress qui dérange tout le monde?
Nous avons deux choses à faire. D'abord,
Pardon, docteur, je ne vous ai pas très bien suivi. Vous dites, on a combien?
Je dis que nous avons deux groupes de conseils qu'on donne. Le premier conseil sera aux États africains, aux présidents, au Sénat, au Congrès et aux chefs traditionnels. C'est de mettre un couvre-feu. Empêcher les gens de se brasser, empêcher les gens de se regrouper. que chacun reste chez lui, décréter l'état d'urgence, et puis on met en place un système qui va, n'est-ce pas, servir les besoins de cette population qui sont encastrées chez eux. Ça veut dire qu'il faut un système pour amener la nourriture, l'eau, les médicaments et tout ce qu'il faut quand on est séquestré chez soi. Ça, c'est le rôle républicain de l'État. La deuxième chose, c'est une responsabilité individuelle. Restez chez vous. Ne sortez que quand lorsqu'il est impossible de rester chez vous. Ne sortez lorsque sortez peu, très peu. Et quand vous sortez, il faut mettre votre masque. Vous n'allez pas hors de chez vous sans masque. Il faut se laver les mains quand vous sortez et quand vous revenez. Il ne faut pas toucher des objets qui sont partout là. Toutes les mesures qui viennent, il faut prendre. Mais je dis que l'État est le plus grand responsable en ce moment à éduquer la population et à essayer de vaincre ce virus. Parce que lorsqu'elle s'implante,
ça, c'est un très bon conseil, docteur. Et à vos collègues médecins, infirmiers qui sont en Afrique, qui sont en train de vous écouter en ce moment, qui ne savent pas exactement comment se protéger, que faire en cas de vous avez qui risque, enfin, un cas où ils ont un patient avec cette maladie. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ces professionnels médicaux?
Ils doivent se protéger. Ils doivent se protéger le nez, protéger la bouche, ils doivent protéger toutes les parties de leur corps. Et quand ils traitent avec ces malades, ils doivent être extrêmement prudents. Une des mauvaises conséquences de cette maladie, c'est que les plus touchés sur le corps médical, à peu près 30 à 40% de tous ceux qui sont malades et qui, tous ceux qui sont morts, appartiennent au corps médical. Ça veut dire qu'on demande la prudence. Oui, quand on devient médecin ou infirmier, on sait qu'il y a un risque. Mais il faut qu'on fasse tout pour désinfecter les lieux. Il faut qu'on fasse tout pour faire un bon triage. Lorsque quelqu'un a la température, on doit estimer qu'il est infecté jusqu'à preuve du contraire. Quand on finit le boulot, il faut qu'on laisse tout. On a du boulot au boulot. Il faut qu'on ait des habits d'échange. Il ne faut pas porter les habits que vous avez utilisés pendant le travail pour rentrer à la maison. Vous risquez de contaminer toute votre famille. Nous demandons que le gouvernement vienne au secours des médecins, infirmiers et personnel médical avec les équipements de protection qu'il les faut. Enfin, nous allons prier que Dieu nous aide dans ce combat parce que c'est un combat, c'est une guerre contre un ennemi qui est invisible.
Merci docteur. Quelques questions que j'ai reçues hier, c'est une dame qui m'a écrit de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, en RDC. Elle m'a dit, Roger, si vous pouvez poser la question au docteur, est-ce qu'un enfant d'une année peut aussi être infecté par le coronavirus?
Oui, en général, dans les cas de maladies virales comme ceci, les populations les plus vulnérables sont les populations dont le système immunitaire n'est pas très bon. Et les deux grands groupes, c'est les enfants entre 0 et 2 ans et les vieillards plus de 80 ans. Les deux extrémités sont des éléments à risque. Associé à cet âge qui est un facteur de risque, il y a d'autres facteurs. Si l'enfant a une maladie chronique telle que l'asthme, telle qu'une maladie cardiaque, telle qu'une insuffisance rénale, telle qu'une maladie immunodéficitaire, ça c'est les facteurs à risque. Être un enfant de moins de 2 ans, parce que vos poumons n'ont pas encore atteint le maximum de leur développement. Alors ça, c'est les deux groupes à risque.
Docteur, une autre question qui nous est arrivée, c'est un monsieur qui a posé cette question pour savoir si il y a des médicaments préventifs pour contre le coronavirus. Est-ce que il peut par exemple prendre du paracétamol, vitamine C pour prévenir ce virus? Moi, je ne pense pas, mais j'ai dit je vais poser la question à l'expert.
Il n'y a aucun médicament dont on a fait les tests de validation aujourd'hui. Il n'y a aucun vaccin dont on appelle les tests de validation. En l'absence de ces deux choses, nous utilisons ce qu'on appelle les moyens de bord. On a proposé la chloroquine, on a proposé les clomiphines, on a proposé... D'abord pour la chloroquine, je dirais que la chloroquine est un médicament antiparasitaire, pas antiviral. Peut-être qu'elle a des effets antiviraux, mais nous connaissons la chloroquine comme un médicament antiparasitaire. La zithromycine aussi est un médicament antibactérien, pas antiviral. Il y a des recherches qui disent que les deux ont des effets antiviraux, mais ce sont des suggestions. Aucune étude n'a prouvé ces choses. Mais nous pouvons utiliser ces deux médicaments comme préventifs et curatifs, parce que nous n'avons pas d'autre choix. J'ajoute à ça l'aloe vera, j'ajoute à ça le ginger, j'ajoute à ça la vitamine C, j'ajoute à tout ce qui peut booster le système immunitaire. Mais comme je vous dis, ce sont les moyens de bord.
Ce sont les moyens de bord, docteur Constantin Tchenkou. Je rappelle que vous êtes docteur ici à Vienna, Washington, D.C. Merci infiniment pour le temps que vous nous accordez, docteur. On va continuer à suivre l'évolution de tout ce qui se passe à propos de ce nouveau virus COVID-19. Et sûrement, on va encore vous appeler à la semaine prochaine en suivant l'évolution. Et merci surtout pour le temps que vous nous avez accordé, docteur.
C'est un privilège pour moi d'aider l'humanité à survivre.
Au revoir, docteur.
Notre blague du jour aujourd'hui, mais demain vous aurez votre blague du jour de Lionel et Jean-Louis Mafema. Restez toujours fidèles à VO Afrique pour vos informations 24 heures sur 24. Please don't go. I gotta go. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis comme d'hab. Ciao, bref. Peace, Africa.